France Info.
Christine Peignet, on va continuer de suivre heure par heure cette situation météo avec vous sur France Info. Merci à tous d'être avec nous de si bonne heure. Il est 5h. Et à la une donc de ce 7 janvier, la menace du verglas et de la neige qui pèse toujours, nous en parlions à l'instant sur une bonne partie du pays, vous allez l'entendre. Pour saler par endroits, c'est le système D, mais ce froid, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les commerçants alors que les soldes commencent aujourd'hui, reportage à venir. À la une également, les propriétaires français du bar touché par un incendie à Crans-Montana en Suisse assurent qu'ils ne se déroberont pas. Les États-Unis qui menacent à nouveau d'employer la force pour s'emparer du Groenland. Et puis l'Algérie et la Côte d'Ivoire filent en quart de la Coupe d'Afrique des Nations de foot. Cet épisode de verglas et de neige a coûté la vie à 5 personnes au moins sur les routes ces derniers jours, dans les Landes, près de Rennes, en région parisienne. Et c'est là le principal risque encore ce matin, d'autant que la France n'est pas très bien équipée pour ce genre de météo. Exemple à Roquelincourt, c'est près d'Arras, dans le Pas-de-Calais, commune de 800 habitants, où le déneigeage, eh bien, il est assuré par le maire lui-même, par un bénévole et un agent communal, Vanessa Lamar.
Oui, ces habitants ont pu rouler sereinement pour déposer les enfants à l'école de la commune.
Ah oui, c'est appréciable. Devant l'école, c'est le maire qui est en train de sabler et ils font ça à la main. Ah oui, moi j'ai pu rouler ce matin, il n'y a pas de souci.
Oui, dans ma petite rue, oui, aussi, dégagée. Il fait ça bien. Elle n'est pas obligée de le faire, c'est sûr. Oui.
Dès 6h, Thierry Moulin, le maire de Roquelincourt, équipé d'une petite remorque à laquelle il a accroché un épandeur, avait déversé plusieurs kilos de sel dans les moindres recoins de la commune.
On est équipé quand même d'une petite remorque qui fait saleuse. On a essayé de passer partout et quand on ne peut pas faire avec la machine, on le fait au seau et à la main. Les petits lotissements, les petites ruelles, ne pas oublier les petites ruelles non plus, voilà. Mais oui, effectivement, avec les moyens du bord, donc c'est un peu le système D, c'est vrai.
Le maire a pu compter sur le soutien de son unique agent technique et aussi sur Bernard, habitant de la commune, bénévole, toujours prêt à aider.
Bah, coup de fil, monsieur le maire, je me déplace, il n'y a pas de problème. Je suis un retraité. Mais j'aime bien aider. On peut toujours compter sur moi.
Ah oui, franchement, il est là tout le temps. Je l'appelle, je lui demande si les disponibilités. Il me dit oui, dans combien de temps? Bon, bah, donc dans un quart d'heure, ok, j'arrive. Bon, heureusement.
Hier, la machine à déverser le sel a lâché. Heureusement, Bernard l'a réparé pour être sur le pont ce matin.
Un reportage de Vanessa Lamar, ici Nord pour France Info. Et aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est le début des soldes d'hiver. Et cette année, forcément, dans ce contexte particulier, cette vague de froid, ces 38 départements à placer en vigilance orange, neige, verglas, on le rappelle. Alors, les responsables des boutiques qui commencent leurs soldes aujourd'hui, eh bien, sont partagés. La neige, eh bien, c'est plutôt bien pour vendre des vêtements chauds. Mais le problème, c'est que ça peut décourager les clients de sortir illustration dans les rues de Paris, Lou Bourdi.
Pour entrer dans ce magasin de vêtements, il faut d'abord ne pas glisser en marchant sur la neige juste devant.
Bonjour mesdames.
Mais pour ces vendeuses, la neige, justement, c'est bon pour les soldes.
Oui, on va écouler les stocks de pulls et de manteaux, quoi.
Des grands manteaux en laine avec 100% laine vierge et tout.
Selon elle, la neige et le froid ne vont pas décourager les clients.
C'est pas souvent qu'il neige à Paris, donc quand il neige, les gens vont sortir un peu plus.
Vraiment, les gens, ils adorent venir essayer. C'est un peu comme venir dans son vestiaire personnel. Et...
Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui vient se chauffer, en fait, dans le magasin. Donc
on vient se réchauffer chez
vous,
quoi.
Ouais, c'est ça.
Juste à côté, dans ce magasin. En revanche,
c'est du mouton, c'est vraiment ce qu'il y a.
Quand on demande au gérant s'il est prêt pour les soldes, la réponse est hésitante.
Après, oui, après le temps là, je sais pas ce que ça va faire du coup avec les intempéries.
La neige lui fait peur.
En France, 1 cm de neige et tout est bloqué, donc c'est un peu compliqué. Il y a déjà des collaborateurs qui n'ont pas pu venir travailler. Puis je pense que c'est de même avec les clients.
Les clients, justement.
Non, pas vraiment.
La neige ne donne pas envie à cette Parisienne de faire les soldes.
Vous êtes mieux au chaud. Voilà, tout à fait.
Difficile à entendre pour les commerçants alors que le mois de décembre enregistre déjà une baisse des ventes, moins 4,5% par rapport à l'an dernier, selon l'Alliance du Commerce.
Merci beaucoup Lou Bourdi pour ce reportage à Paris. Jacques et Jessica Moretti se disent dévastés. Ce sont les propriétaires français du bar Le Constellation qui a brûlé il y a une semaine à Crans-Montana en Suisse le soir du réveillon. 40 personnes ont perdu la vie, plus de 100 ont été blessés. Le couple a transmis via ses avocats un communiqué à la presse, Margot Steve. Il assure ce couple qu'il collaborera avec la justice.
Oui, un communiqué d'une vingtaine de lignes largement consacré aux victimes. « Nous sommes dévastés et envahis par le chagrin », écrit le couple Moretti, « en pensée constante pour les victimes, leurs proches endeuillés, ainsi que pour tous ceux qui sont en train de mener un combat pour la vie. Nous faisons, disent aussi les gérants, pleinement confiance aux enquêteurs pour faire toute la lumière et diluer les interrogations. Nous ne chercherons d'aucune façon à nous dérober », affirment les propriétaires du bar. C'est la première fois que Jacques et Jessica Moretti prennent publiquement la parole depuis le drame. Eux qui sont désormais soupçonnés par la justice suisse d'homicide, incendie et lésions corporelles par négligence. Au cœur des investigations, les normes de sécurité de cet établissement qui n'avait, selon le directeur de la commune de Crans-Montana, pas été contrôlées depuis 5 ans.
Merci Margot Steve, service police-justice de France Info. Plusieurs milliers de soldats français pourraient être déployés en Ukraine pour maintenir la paix après un cessez-le-feu. C'est ce qu'affirme Emmanuel Macron hier soir. Il recevait les chefs des pays de la coalition, des volontaires, ses alliés qui sont prêts à aider l'Ukraine en cas d'arrêt des combats. Et tout ça se ferait avec l'appui des États-Unis qui étaient représentés lors de cette réunion par l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, et le gendre du président américain Jared Kushner. Une démonstration d'unité donc à Paris, malgré des tensions toujours plus fortes entre les deux côtés de l'Atlantique sur le dossier groenlandais. Les États-Unis continuent de répéter qu'ils veulent s'emparer de ce territoire du Grand Nord qui appartient pour l'heure au Danemark. La Maison-Blanche confirme que l'option militaire est toujours sur la table. L'administration Trump, en quelque sorte, Franck Madvon, continue de souffler le chaud et le froid.
C'est un simple communiqué de la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, mais il provoque de nouveaux maux de tête chez les diplomates européens. Le Groenland est une priorité de sécurité nationale pour les États-Unis, un enjeu qualifié de vital dans l'Arctique, et le recours à l'armée américaine est toujours une option. Stephen Miller, proche conseiller de Donald Trump, le dit en ces termes sur CNN. Les États-Unis doivent avoir le Groenland. Inutile de parler d'options militaires. Personne ne va affronter militairement les États-Unis pour l'avenir du Groenland. Déclaration belliqueuse donc, mais le secrétaire d'État Marco Rubio a dévoilé à des élus du Congrès la stratégie de l'administration. Suggérer une invasion du Groenland pour contraindre le Danemark à vendre le territoire, c'est un objectif affiché de longue date. Donald Trump convoite le Groenland depuis son premier mandat. Il a demandé cette semaine à ses conseillers un nouveau plan pour arriver à ses fins. Des négociations d'abord donc, mais le Danemark, soutenu par ses alliés européens, n'a aucune intention de céder l'île. L'option militaire serait un leurre. Toujours est-il qu'elle fait désormais partie du débat.
Franck Madvon à Washington pour France Info. Vous avez peut-être entendu des coups de klaxon dans les rues hier. C'est l'effet Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. On connaît désormais la liste des 8 dernières équipes en lice qualifiées pour les quarts de finale. Hier soir, la Côte d'Ivoire s'est imposée face au Burkina Faso 3-0 à Marrakech et affrontera donc l'Égypte en quart de finale. Et puis un peu plus tôt, c'est l'Algérie qui a éliminé la République démocratique du Congo sur un score d'1-0. Choc très attendu qui a tenu toutes ses promesses à Del Beloumri. Les Algériens se sont qualifiés grâce à un but en toute fin de prolongation dans une ambiance électrique.
Le stade Moulay El Hassan, vrai petit chaudron pour les Verts d'Algérie, était prêt à s'embraser. Il a fallu attendre la 119e, 6 minutes après son entrée en jeu. L'attaquant Adel Boulbina envoie les Fenech en quart de finale grâce à une frappe splendide dans la lucarne congolaise pour le plus grand plaisir des plus de 10 000 supporters algériens. L'Algérie qui joue au Maroc comme à domicile, souligne le défenseur algérien Ryan Aitno.
Ouais, les supporters ils sont toujours au rendez-vous de toute façon. Que ça soit au Maroc ou n'importe où, ils sont toujours là, ils nous soutiennent, donc ça fait super plaisir. On espère leur rendre toute leur confiance qu'ils nous accordent.
Une confiance qui a porté les Fenech vers une victoire pleine de maîtrise et de caractère, selon le milieu Imad Abdelli.
On a fait un très bon match. Je trouve qu'on a été, costaud. Le Congo, ils n'ont pas été dangereux. Donc c'est ça le plus important. Et on marque à la fin, mais on aurait pu marquer pendant les 90 minutes et on est très heureux.
Mais ce sera une autre histoire en quart face au Nigeria. Meilleure attaque du tournoi avec 12 buts en 4 matchs, prévient le capitaine algérien Riyad Mahrez.
Nigeria, ça va être encore un gros match. Un match un peu plus différent, je pense, un peu plus ouvert. De grosses équipes qui veulent jouer, donc je pense que ça sera bien.
L'Algérie qui pourrait ensuite affronter le Maroc en demi si les voisins l'emportent face au Cameroun vendredi.
Merci beaucoup Adèle Belloumri à Rabat au Maroc pour France Info Rabat où ce matin il fait 9 degrés. C'est pas vraiment la même chose Christine Peña dans l'Hexagone avec ce nouvel épisode de neige.
Ben oui, il fait très froid, oui, la neige commence à tomber. D'ici ce soir, elle aura concerné les trois quarts du pays. Elle va fortement perturber de nouveau nos déplacements, évidemment. Il fait encore très froid ce matin. Les gelées, les fortes gelées, au-dessus de moins 5, on parle de fortes gelées. On peut avoir jusqu'à moins 10 degrés par endroit. C'est vraiment entre le sud-ouest et le nord-est, en passant par le massif central, qu'il fait le plus froid encore ce matin. Moins 12 à Aurillac. On note le redoux qui arrive par l'ouest. Et vous repassez en positif. Il fait 7 à Brest. C'est même plus qu'à Toulon. Ah, où il fait 6 degrés ce matin.
Pour une fois, dans les deux ports militaires oui. Que compte notre pays. Merci beaucoup Christine Peña. Il est 5h10.
France Info, le monde d'Élodie.
Bonjour, c'est Élodie Suigo. Je vous retrouve du lundi au vendredi sur France Info, cinéma, théâtre, littérature, musique, sport. Chaque jour, je vous propose un entretien sous forme de portrait avec un artiste autour de son actualité.
Le monde d'Élodie, c'est toute la semaine à 5h20 et 10h50 sur France Info.
Et dans le monde d'Élodie, justement à 5h20, nous serons avec la Benjamine du dernier Vendée Globe, Violette d'Orange, qui raconte son tour du monde à la voile dans un nouveau livre. À venir aussi d'ici 5h30 sur France Info, le témoignage d'une Vénézuélienne à la fois inquiète et pleine d'espoir après la capture du président Maduro par les États-Unis. Mais d'abord, la neige, nous en parlions, qui continue de tomber.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Une neige qui tombe en ce moment sur les côtes de la Normandie et qui devra se diriger ensuite vers la région parisienne. Retour de la neige qui risque d'avoir des conséquences à nouveau sur le réseau électrique. Hier, 8000 foyers ont été privés de courant, une partie en Loire-Atlantique et en Vendée. Yves-René Tapon, vous vous êtes rendu dans deux hameaux isolés et sans courant au sud de Nantes.
Nous sommes dans un hameau très très isolé. Il y a plus de 20 cm de neige, on a rarement vu ça ici, ou alors depuis très longtemps. C'est comment votre prénom ?
Jean-Fabien. Hier soir, on regardait la télé, puis le courant a coupé, mais ça ne nous a pas inquiété de trop. J'ai mis le groupe en route, c'est avec le tracteur, j'ai été le chercher chez l'un de
vous. Vous avez un groupe électrogène ?
Oui, qui marche derrière le tracteur.
Et puis le chauffage, c'est comment ?
Ah ben, c'est une cheminée, alors il n'y a pas de problème. Là. Ce matin, c'était bien, sauf qu'on n'a pas de lumière.
Et là, il y a le groupe électrogène qui tourne, là, c'est ça, là.
Je branche directement là, puis il s'en va à la maison.
Merci à vous.
De rien.
Et surtout, bon courage.
Oui.
Nous nous rendons un peu plus loin, et nous croisons une maman et son fils avec leur chien.
Moi, c'est Tao.
Mélanie.
Et alors, comment ça s'est passé hier soir, là ?
Bah, c'était hyper agréable.
On a joué dehors. Et puis, surtout, ce qui est très embêtant, bah, c'est le frigo et le congélateur, où là, bah, on verra ce que ça donne. On a mis les aliments dehors, puisqu'il fait plus froid dehors que dans le frigo.
Et pour le chauffage, pour la lumière ?
Alors le chauffage, en fait, les volets sont fermés depuis hier soir, donc on a réussi à garder un peu. Puis sinon, on avait une seule lumière, plus de bougies parce qu'on a tout pris à Noël.
Donc là, ouais, certes, c'est joli, mais ça serait bien que ça soit rétabli assez vite quand même.
L'électricité, oui.
Un reportage signé Yves-René Tapon, ici Loire-Océan pour France Info. Ce sont désormais, selon le dernier bilan d'Enedis, le gestionnaire de réseau, seulement 600 foyers qui sont toujours privés d'électricité dans les pays de la Loire. Encore 2000, selon le dernier bilan, en Charente-Maritime. Voilà pour les conséquences sur le réseau électrique. Il y en aura donc à nouveau avec le retour de la neige sur le réseau routier, avec des mesures importantes qui sont prises par les autorités dans la région Centre-Val de Loire notamment. Il n'y a pas de transport scolaire, c'est encore le cas aussi en Île-de-France dans les départements de Grande Couronne comme les Yvelines et la Seine-et-Marne. Des mesures sont prises aussi en urgence par le préfet de la région Hauts-de-France, Bertrand Gaume, qui était l'invité de France Info hier soir.
Selon les prévisions de Météo France, on attend entre 3 à 7 cm. C'est un épisode sérieux. Les choses se préparent. D'abord avec des invitations à la population de limiter les déplacements, de faire preuve de prudence, de favoriser le télétravail, de privilégier également des transports en commun, notamment pour l'instant les transports en commun de type métro, tramway en ville, certaines lignes de bus qui peuvent être perturbées changer, mais les prévisions de SNCF sont plutôt à ce stade convenables et maintenues. Donc, privilégier les transports en commun. Et pour celles et ceux qui doivent prendre leur voiture, les mesures seront les suivantes. D'abord, pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, la circulation de ces poids lourds de plus de 3,5 tonnes sera interdite sur l'ensemble des autoroutes, routes nationales des départements, et nous allons activer des zones de stockage qui seront activées sur la région. 25 zones de stockage seront activées pour plus de 15 000 places. Pour l'épisode neigeux d'hier, nous en avions 7000. Donc comme l'épisode est annoncé comme plus sérieux, nous doublons le nombre de places de stockage. Je profite de votre antenne pour bien redire à l'ensemble des automobilistes, quand les opérations de viabilité hivernale, de salage sont en cours, on ne double pas un opérateur de voirie qui est en train de faire son travail. Mmh. On est prudent et on ne double pas les saleuses quand elles sont en activité.
Voilà, le message est passé. Hein. Vous conseillez aux automobilistes et aux habitants des Hauts-de-France, d'une manière générale, de se tourner vers les transports en commun. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont circuler, les transports en commun, avec en 3 cas, à 7 cm de neige ?
SNCF a des prévisions qui sont pour l'instant respectées. L'ensemble des transports scolaires, en revanche, sont suspendus.
Ça, c'est pour les trains, mais les bus, par exemple.
Les bus, les bus, notamment les bus scolaires, sont intégralement suspendus pour la journée. On a travaillé avec le Conseil régional des Hauts-de-France, qui est l'organisateur des mobilités dans la région, pour ce type de prestation. Évidemment, la solution à privilégier, c'est d'abord et avant tout de limiter ses déplacements, de favoriser le télétravail.
3 à 7 cm de neige attendue, hein, je le disais. Localement, ça peut être plus. Vous surveillez un ou plusieurs secteurs, en particulier dans les Hauts-de-France?
L'ensemble de la région sera en vigilance. Il y a évidemment, vous avez cité les Ardennes, puisque la dépression neigeuse va s'amplifier, semble-t-il.
Jusqu'à 15 cm dans les Ardennes.
Jusqu'à ce qu'elle se déplacera dans l'Est. Donc évidemment, toute la zone frontalière de la région Hauts-de-France, notamment l'Aisne, sera particulièrement en vigilance, mais c'est l'ensemble de la région des Hauts-de-France qui est concernée. Je veux aussi dire que nous avons tenu compte des difficultés du monde agricole dans la prise de nos arrêtés, puisque nous assurons notamment les véhicules affectés à la collecte du lait. C'est quelque chose de très sensible dans la région des Hauts-de-France. Les véhicules affectés à la collecte du lait pourront récupérer le lait avec des dérogations, dès lors évidemment que les conditions de chaussée permettent de rouler, mais ça fait partie des véhicules dérogatoires.
Et quels sont les autres véhicules dérogatoires dont vous nous parlez? On imagine qu'il s'agit des ambulances, par exemple.
Les véhicules des gestionnaires routiers, les véhicules indispensables aux interventions d'urgence. Évidemment, on pense aux sapeurs-pompiers, on pense aux ambulances, mais on peut aussi penser aux interventions urgentes sur les réseaux d'énergie, d'eau, d'assainissement, de chauffage, de communication nécessaire à la viabilité hivernale, évidemment, mais aussi l'ensemble des véhicules de dépannage, de remorquage, et ceux qui peuvent transporter des animaux vivants, comme je le disais précédemment pour la collecte du lait.
Vous nous parliez à l'instant des secours. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier prépositionné dans les Hauts-de-France?
Le dispositif de l'ensemble des services départementaux d'incendie et de secours, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, ont été montés en vigilance. L'état-major interministériel de zone est mobilisé. Nous ouvrirons le centre opérationnel de zone pour coordonner tout cela en lien avec les sapeurs-pompiers de chaque département dès le début des opérations de stockage, et chaque préfecture progressivement, en fonction de l'arrivée et notamment dès 4-5 heures du matin, chaque préfecture aura activé son centre opérationnel départemental qui permettra de coordonner l'ensemble des services pour les services publics.
Le préfet de la région Hauts-de-France, Bertrand Gaume, qui répondait aux questions France Info de Marc Potvin. Restez avec nous, nous partons à la rencontre dans un instant de Vénézuéliens qui sont toujours dans l'attente et un peu dans l'angoisse après la chute du président Maduro, capturé le week-end dernier par les États-Unis.
France Info, 5h-6h.
Mais d'abord, c'est l'heure de l'info en une minute. Bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
L'info en une minute à 5h20 et à la une ce matin. Ce sont ces 38 départements en vigilance orange.
À cause de la neige et du verglas, cela concerne une zone qui va de la Charente-Maritime à l'Allier jusqu'au nord. Un phénomène d'une ampleur rare, dit même Météo France. Il est déconseillé de prendre la route ce matin. Au moins 5 personnes sont mortes dans des accidents de la route liés aux intempéries hier. Cette neige a aussi des conséquences sur le trafic aérien. 40% des vols annulés à Paris-Charles de Gaulle, le premier aéroport français. Les alliés de Kiev affichent un front uni à Paris. Ils s'accordent sur le déploiement d'une force internationale une fois un cessez-le-feu signé entre l'Ukraine et la Russie. Emmanuel Macron indique que des milliers de soldats français pourraient être déployés au sein de cette force. Le chef de l'État qui affirme par ailleurs qu'il n'imagine pas les États-Unis violer la souveraineté danoise. Mais quelques heures après cette déclaration, la porte-parole de Donald Trump a fait savoir que le président américain étudiait plusieurs pistes, y compris l'utilisation de l'armée pour s'emparer du Groenland, un territoire danois. Et puis les obsèques de Brigitte Bardot se dérouleront ce matin à Saint-Tropez. L'actrice est morte à 91 ans. Marine Le Pen du Rassemblement National sera présente.
France Info. Aucun agent extérieur ne gouverne le Venezuela, assure la présidente par intérim du pays, Delcy Rodriguez. C'est elle qui a remplacé officiellement Nicolas Maduro, l'ancien homme fort du pays qui a été capturé vendredi dernier par les États-Unis. Une déclaration alors que Donald Trump, aux États-Unis, lui assure que c'est Washington qui décide désormais plutôt que Caracas. Et c'est donc le flou et l'instabilité qui règnent et qui inquiètent les Vénézuéliens et les Vénézuéliennes. Vous en avez rencontré une, Faustine Calmel, à la frontière avec la Colombie.
Aujourd'hui, Genesis Armas va traverser le pont, passer la frontière pour rentrer chez elle au Venezuela. Après des vacances dans la famille de son mari colombien, cette jeune graphiste s'apprête à effectuer ce long voyage sous tension.
On a peur d'y retourner, mais nous voulons aussi voir ce qu'il se passe sur place. Nous ne savons pas vraiment ce que nous allons rencontrer sur notre route. C'est un long voyage, 12 heures de route, et les policiers vénézuéliens cherchent des problèmes.
Dans ce contexte instable, il va lui falloir traverser des zones où sévissent aussi des groupes paramilitaires. Elle craint des tensions plus fortes que d'habitude et a hâte de retrouver ses proches après l'angoisse provoquée par l'attaque américaine sur Caracas samedi dernier.
C'est très émouvant mais triste à la fois. Avec tout ce qu'il s'est passé, la peur, la nervosité d'être loin de chez moi, c'est un moment historique. Qui allait s'imaginer que ça allait arriver et que nous ne serions pas chez nous? Il y a l'angoisse d'y assister mais aussi de ne pas être là.
Après la capture de Nicolas Maduro, Genesis le sait, le processus de transition, s'il a lieu, ne se fera pas en un jour, il faudra
de la patience, parce que cela va prendre du temps. Et j'espère que nous aurons la sagesse suffisante pour supporter les changements qui arrivent. Avant d'avoir du mieux, il risque de se passer beaucoup de mauvaises choses. Grâce à Dieu, j'ai mon business, mon mari, tout va bien. Mais avec cette économie si instable, c'est compliqué de se projeter dans l'avenir. On vit au jour le jour, pas à pas.
Genesis rattrape son tout jeune fils par la main. Bien sûr, la jeune femme aimerait avoir un autre enfant, confie-t-elle. Mais pour cela, il faut que la situation du Venezuela s'apaise et s'améliore.
France Info, reportage à Cucuta en Colombie, signé Faustine Calmel et Benjamin Thuo à 5h22, pardon pour le monde d'Elodie. Avec une jeune navigatrice ce matin.
Bonjour Violette d'Orange.
Bonjour.
Vous êtes cette navigatrice et skippeuse qui a marqué les esprits lors de votre première participation à la course mythique Le Vendée Globe. Il faut dire que vous êtes un personnage aussi attachant que drôle, solaire. La voile est donc votre passion depuis très très longtemps. Il faut dire que vos parents vous ont inscrit très jeune avec votre grande sœur Rose et votre grand frère Charles à la société des régates Trochelaise. Et en 2016, ça a payé car vous êtes devenue la première jeune fille à traverser la Manche sur votre Optimiste en 15 heures. Aujourd'hui, vous sortez votre carnet de bord intitulé Mon premier Vendée Globe, paru chez Gallimard, en collaboration avec Patricia Jolie. À l'intérieur, on y découvre votre univers, vos dessins, votre histoire et on comprend à quel point la voile fait partie de vous, tout comme les océans, le besoin de vous dépasser, d'oser, d'y aller. La voile, c'est donc votre meilleure amie, c'est une confidente.
C'est un peu tout, c'est le départ vers l'aventure, c'est aussi le moment où souvent je suis en solitaire, donc c'est aussi un moment où je me retrouve un peu face à moi-même. Je dois me challenger auprès des autres concurrents, mais c'est aussi un moment avec moi où je pense que ce carnet il vient de là aussi, c'est un moment où j'ai plein d'inspiration, plein d'idées, je sais quelles sont les priorités de ma vie.
Vous démarrez ce carnet de bord en racontant votre Everest à vous. Le Vendée Globe, ça représente quoi pour vous, cette course?
Pour moi, c'est le Graal pour tous les navigateurs. Un tour du monde en solitaire sur un bateau qui est immense, je le trouve encore. On passe par des océans, les mers du Sud, le passage du Cap Horn, le passage du Poteau Noir. Tout ça, c'est de l'inconnu, quoi. C'est la vraie aventure pour moi.
Vous avez compris très vite que vous aviez un souci avec la pression et vous avez beaucoup travaillé avec une sophrologue. Ça, c'était aussi l'une des facettes de votre personnalité. Est-ce qui vous rend plus forte, ça ?
Oui, ça a été le point fort, en tout cas dans ma navigation, c'était que j'ai travaillé la préparation mentale. Et par exemple, dans mes débuts en course au large, il y a plein de moments où on traverse des premières peurs, les peurs des premières tempêtes, de la casse matérielle. Et donc, on a travaillé beaucoup de choses, le sommeil, le fait d'être déterminé, de savoir aussi affronter la douleur si jamais ça arrive en mer, de vaincre toutes ces peurs aussi.
Je voudrais qu'on parle du 64e jour de cette traversée de ce Vendée Globe. Vous perdez un élément de la voile, ce qu'on appelle la tête de voile.
En fait, c'est une petite voile d'avant qui est une voile de tempête. J'étais dans des conditions très compliquées, il y avait beaucoup de vent, il y avait bien 4 mètres de houle, 35 nœuds. J'étais partie dormir et je me réveille et je vois quelque chose par le hublot qui traîne dans l'eau. Qu'est-ce que c'est ? Je sors en courant et là je vois que c'est ma voile d'avant. Donc elle était encore attachée par les pièces en bas, mais elle traînait dans l'eau. Et ça, dans 35 nœuds, 4 mètres de houle, ça m'est jamais arrivé. Et je me suis retrouvée à essayer de la récupérer. J'ai eu super peur. Au moment où je veux la ranger dans la soute de mon bateau, on a une petite porte qui nous permet de mettre les voiles dans la soute. Cette porte s'arrache. Je me retrouve avec un trou béant de, je sais pas, 1 mètre carré, quoi, qui reste rentré l'eau par vague. Par chance, la porte n'est pas tombée dans l'eau et elle est restée sur le pont. Elle s'est juste arrachée sur le côté. Donc j'ai sauté dessus et j'ai pu la remettre et je l'ai réparée plus tard quand le vent s'est calmé. J'ai eu d'autres moments très très compliqués dans le livre que je raconte, mais ça c'est un des moments dont je me souviens, c'était vraiment chaud.
Vous écrivez que votre plus gros soutien, ça a vraiment été le public. Vous racontez, c'est assez fou d'ailleurs, ce moment où vous arrivez, où on vous a accueilli comme la vainqueur.
Bah, c'était complètement fou. Je m'attendais pas à autant de monde sur le chenal des Sables d'Olonne et c'est drôle parce que parfois j'ai l'impression d'être une grande sœur pour certains, la petite sœur pour d'autres et enfin les gens sont hyper proches et c'est trop chouette, j'ai une chance incroyable.
Juste un mot sur justement cette arrivée là, la notoriété ça a été difficile pour vous hein.
C'est arrivé d'un coup et ça c'est vrai que c'est dur parce que j'avais pas forcément les codes et je savais pas comment gérer ça et puis c'est aussi que mon planning s'est retrouvé rempli du jour au lendemain à mon arrivée du Vendée Globe et j'ai même pas eu le temps de raconter le Vendée à mes proches, de retourner voir ma mère. Et c'est ça, c'est cette intensité de planning qui a été dure à gérer. Savoir faire les bons choix, c'est parfois compliqué, ou savoir dire non. Et puis après, dans la vie de tous les jours, c'est apprendre à gérer. Quand les personnes viennent me solliciter, c'est avoir les bons mots et savoir comment réagir. Parce que c'est dur d'être engagé partout. En fait, on peut pas, je ne pouvais pas me dédoubler.
Est-ce que votre plus grande fierté n'est pas d'être cette jeune fille qui a donné à d'autres jeunes filles l'envie d'y aller ?
Pour moi, c'est la plus grande des victoires. Quand je vois des petites filles qui se sont dit, je me suis inscrite à la voile parce que j'ai vu que tu faisais de la voile et j'ai suivi ton projet. Et ça, c'est trop chouette parce que la voile, c'est un sport mixte. Tout le monde peut le faire. Et pourtant, c'est un sport très masculin. Mais pourtant, il n'y a pas de raison. C'est la plus grande des victoires, c'est de pouvoir pousser la jeunesse à se réaliser, soit les amener à la voile ou à ces sports-là, soit les amener au sport en général. Et puis aussi, la jeunesse à réaliser ses rêves.
Merci, Violette Dorange, d'être passée dans le monde d'Élodie sur France Info.
Merci.
Votre carnet de voyage, mon premier Vendée Globe, est sorti aux éditions Gallimard. Merci beaucoup.
Merci Elodie.
Le monde d'Elodie avec Violette d'Orange est à réécouter sur l'application Radio France. C'est l'heure de la météo.
France Info Météo avec Verisure. En 2026, priorité à votre sécurité. Faites confiance à Verisure, alarme télésurveillée numéro 1 en France. Devis gratuit sur verisure.fr.
Et on va prendre le temps ce matin comme hier pour la météo, car il y a beaucoup de choses à dire. Christine Peña, avec ses 38 départements placés en vigilance orange.
Mais oui, c'est la neige qui arrive par la Normandie. Déjà sur l'ouest de l'Île-de-France, il commence à neiger dans les Yvelines, un peu plus tôt que prévu. Finalement, sur Paris, ça arrive. En Normandie, ça fait un petit moment qu'il neige, on a bien ces pluies verglaçantes. Attention, entre le Maine, l'Anjou, le Poitou, ça glisse. Faites très attention, la neige va progresser vers le Massif central et l'Est, surtout dans la journée. L'Auvergne-Rhône-Alpes en fin de journée, alors en perdant un peu d'intensité. Ce matin, c'est là que la neige tombera le plus abondamment. Elle peut apporter quelques centimètres de plus, évidemment, de 3 à 7 centimètres quand même de plus. Entre le Nord, Paris et le Massif central, les pluies abondantes sont attendues en fin de journée, cette fois dans le sud-ouest. Nous avons ce redoux qui commence à gagner les régions de l'ouest. Hein, déjà ce matin, il fait 7 à Brest, 6 à Vannes. C'est la même température qu'en Méditerranée, du côté de Toulon, 5 à Bastia. On a 1 à Rennes, mais on est en négatif du côté de Lyon, de Paris, de Tours, d'Orléans. Il fait moins 2, moins 3 à Bordeaux encore, moins 5 à Clermont-Ferrand, là où il fait le plus froid. C'est à l'intérieur du sud-ouest, moins 8 à Agen, également en Auvergne, hein, moins 9 du côté exactement de Millau. Et puis alors moins 12 à Aurillac, c'est là où il fait certainement le plus froid. Cet après-midi aussi, on verra ce contraste s'installer. 7 à Rennes, à 9 à Brest et même 11 à Biarritz contre 1 à Lyon et 0 encore à Strasbourg et Dijon. Et on parle de la tempête à partir de jeudi soir, surtout dans la nuit de jeudi à vendredi, on aura une tempête avec des vents tempétueux au nord de la Loire, ça se passera.
Merci beaucoup à Christine Peña. Ce qui vous attend sur France Info dans la prochaine demi-heure, la France qui est prête à envoyer des troupes en Ukraine, c'est ce que dit Emmanuel Macron en cas de cessez-le-feu. On va faire le point sur ce qui s'est dit hier au sommet de la coalition des volontaires qui avait lieu à Paris, ce sera dans 5 minutes. Des agriculteurs qui se remobilisent, nous vous dirons pourquoi ils n'ont pas été convaincus par leur rendez-vous avec le Premier ministre ces deux derniers jours. Et puis faute de monnaie dans nos poches, des sans-abri ont maintenant des QR codes pour récolter de l'argent. Ce sera le choix de France Info dans un quart d'heure. Merci d'être avec nous. C'est l'heure d'un nouveau point sur l'actu à 5h30.
France Info.
On le disait, elle s'était calmée, mais elle revient en force, la neige. Elle est de retour ce matin. 38 départements du Nord et de l'Ouest sont en vigilance orange pour les flocons, mais aussi pour le verglas. Et ce devrait être encore plus intense que le précédent épisode. Les autorités appellent donc à éviter les déplacements si c'est possible. Certains professionnels, eux, n'ont pas d'autre choix que d'aller au travail. C'est le cas de Fanny. Elle est pharmacienne dans les Yvelines.
Moi, j'ai choisi le vélo, donc j'ai que 3 km à faire. Donc à vélo, je pense que c'est bien plus simple que la voiture.
Avec la neige, ça va, vous tenez le coup ?
Oui, ça accroche bien, ouais. Donc aucun souci. Et puis s'il faut, je mets le pied à terre et c'est beaucoup plus simple qu'en voiture. Par contre, il faut être pas mal équipé, il faut être vu. Les lunettes pour pas avoir la neige dans les yeux. Mais quand on est toute une journée en fait à travailler à l'intérieur, ça fait un bien fou de prendre l'air.
Donc vous n'avez pas de restriction de circulation, vous pouvez aller où bon vous semble.
Dans un petit périmètre.
Témoignage au micro France Info de Boris Loumagne. Il y a donc des conséquences sur la route aujourd'hui de cet épisode météo. On le disait, les poids lourds aussi, ils ne peuvent pas circuler dans les Hauts-de-France. Conséquences dans les aéroports également. À l'aéroport de Roissy, un quart des vols sont annulés. Aéroport parisien de Roissy, c'est 40% à l'aéroport d'Orly. Des agriculteurs se mobilisent de nouveau aujourd'hui. Après ces deux jours, nous en parlions de rendez-vous entre leur syndicat et le Premier ministre Sébastien Lecornu qui promet des annonces concrètes d'ici vendredi. Plusieurs cortèges de tracteurs sont partis des départements du sud-ouest et continuent de converger vers Paris. D'autres veulent bloquer Toulouse également. Les raisons de ce mouvement, la signature potentiellement imminente du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, les pays d'Amérique du Sud. Mais aussi pour certains syndicats, la colère est due à cette politique d'abattage des troupeaux qui sont touchés par la dermatose nodulaire bovine. Une nouvelle assemblée générale aura lieu ce matin à 9h, Assemblée Générale des salariés du Louvre qui avaient voté la reconduction de leur grève lundi dernier. Le plus grand musée du monde avait dû ouvrir partiellement seulement. Ils décideront donc à nouveau ce matin s'ils se mettent en grève ou non pour réclamer de meilleures conditions de travail. À 11h ce matin, Saint-Tropez dira au revoir une dernière fois à son icône. Ce seront les obsèques de Brigitte Bardot qui a rendu le village varois connu dans le monde entier. L'icône du cinéma, on le rappelle, est décédée à l'âge de 91 ans dans sa maison de Saint-Tropez où elle s'était isolée à la fin de sa vie. Les funérailles auront lieu dans la simplicité comme le désirait Bébé, sans Emmanuel Macron. Le président de la République ne sera pas là, mais en présence de Marine Le Pen, elle qui avait à de nombreuses reprises manifesté son soutien pour l'extrême droite. Brigitte Bardot sera inhumée au cimetière Marin après une cérémonie à l'église. Le public sera tenu à l'écart, mais il pourra suivre, Mathilde Vinceneux, les obsèques sur des écrans géants qui sont installés par la mairie.
Le public est invité à saluer le convoi funèbre qui traversera Saint-Tropez. Puis la cérémonie sera retransmise sur trois écrans géants, sur le Vieux-Port, la place des Lys et devant la mairie. Joël a fait 850 km pour dire adieu à Brigitte Bardot.
On a fait 10 heures de route hier pour venir lui rendre hommage. C'était vraiment une femme exceptionnelle. Il y a un bout de la France qui s'en va.
Près de la statue dorée de bébé, Véronique dépose des fleurs colorées, comme le souhaitait l'icône de son enfance.
Elle brillait à la télé, elle était belle. Petite fille, j'étais émerveillée. Et son engagement pour les animaux me touche le plus profond de mon cœur. Et je pense qu'elle restera éternelle.
Éternel bébé, c'est justement la une de Var Matin que vient d'acheter ce couple de touristes belges.
Éternelle Brigitte Bardot.
On adore Brigitte. C'était une belle dame. C'est elle qui a commencé avec le bikini. Hein.
Brigitte qui était une étoile au-dessus de Saint-Tropez qui a fait briller la planète.
Chico, le cofondateur des Gypsy Kings, il fait partie des rares personnalités invitées aux obsèques.
C'était une amie, c'était une grande sœur. Une femme de combat jusqu'à la fin pour cette cause animale qui est vraiment un exemple extraordinaire.
Dans l'église de Saint-Tropez, on entend déjà la voix de Brigitte Bardot qui résonne.
Merci beaucoup Mathilde Vinceneux à Saint-Tropez. On suivra évidemment sur France Info cette cérémonie d'hommage, le dernier hommage à Brigitte Bardot. Il est 5h34.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Des soldats français vont-ils bientôt fouler le sol ukrainien? Hier, une nouvelle réunion de la coalition des volontaires, ces pays alliés de l'Ukraine, a eu lieu à Paris. Et le président de la République a donc esquissé, aux côtés de Volodymyr Zelensky, son homologue ukrainien, les fameuses garanties de sécurité. Ce déploiement d'une force militaire multinationale qui doit avoir lieu si un cessez-le-feu entre en vigueur en Ukraine. Bonjour Paul Barcelone.
Bonjour à tous.
Service politique de France Info, vous avez suivi cette réunion, Paul. Et la France entend prendre sa part donc?
Pour maintenir la paix, quand le cessez-le-feu sera signé, oui, la France compte participer à ces opérations en déployant des troupes en Ukraine, assure Emmanuel Macron.
Ce ne sont pas des forces qu'on engage au combat, c'est ça que je veux clarifier. Il faut vraiment que nos compatriotes aient ça en tête. C'est le jour d'après la paix, la potentialité de plusieurs milliers d'hommes, mais ça n'est pas, un, ce qu'on va faire dès maintenant, deux, ça sera planifié, trois, ce sera dans le cadre de nos opérations extérieures et donc on fera des arbitrages.
Alors vous l'entendez, impossible de savoir précisément combien d'hommes. Quoi qu'il en soit, pas d'envoi dans l'immédiat. Pas tant que la paix n'est pas actée, solide et durable. La France prévoit aussi, selon le président, des missions d'observation et de surveillance, d'entraînement également de l'armée ukrainienne qui, avec ses 800 000 hommes, sera d'abord en premier rideau. Les troupes des pays alliés plus loin derrière, de façon à ce que la paix, précise Emmanuel Macron en conférence de presse, ne soit pas synonyme de reddition de l'Ukraine.
Et nous sommes tous lucides, les paix qui ont été signées ces 15 dernières années par la Russie ont toutes donné lieu à des violations par la suite, en Moldavie, en Géorgie, en Ukraine. Et donc fort de cette expérience, nous voulons que cette paix, elle ait ses garanties.
Volodymyr Zelensky salue des documents substantiels et pas seulement des paroles en l'air. Problème, la Russie n'a jusqu'ici jamais voulu arrêter la guerre en Ukraine, laissant les garanties de sécurité à l'état de plan et l'envoi des troupes, notamment françaises, à l'état d'hypothèse.
Emmanuel Macron qui se montre, Paul, particulièrement allant et qui renouvelle sa confiance en la fiabilité des Américains.
Confiance renouvelée aussi, en dépit des propos de Donald Trump qui menace désormais le Groenland. Emmanuel Macron se veut rassurant sur France 2.
Il n'y a pas pour moi de scénario où les États-Unis d'Amérique seraient mis dans une situation de violer la souveraineté danoise. Cela n'existe pas. Et je sais que les Américains continueront d'avancer avec nous pour la paix et la sécurité en Europe.
Et le président en veut pour preuve. Deux émissaires, deux très proches de Donald Trump, ont participé à la réunion de la coalition des volontaires hier. Son envoyé spécial Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner.
Cette coalition des volontaires marque une étape nouvelle qui me semble correspondre à ce que nous défendons et qui, d'ailleurs, est conforme aux souhaits américains, c'est-à-dire une Europe qui s'occupe de sa sécurité. Et donc, je n'ai pas lieu de suivre quelques thèses qui douteraient de cet engagement.
Alors Emmanuel Macron prend-il le risque d'apparaître comme trop docile à l'égard des États-Unis et de Donald Trump? Le président est en tout cas de plus en plus critiqué, jusque dans son propre camp. Son ancien Premier ministre Édouard Philippe, candidat à la prochaine présidentielle, estime dans Le Figaro ce matin que l'Europe, si chère à Emmanuel Macron, est devenue un simple commentateur du Monde.
Merci beaucoup Paul Barcelone du service politique de France Info. Revenons tout de même à cette unité relative, en tout cas affichée malgré tout entre Européens et Américains hier lors de ce sommet des volontaires, de la coalition des volontaires à Paris sous l'égide de la France. Un succès diplomatique, salue le général Dominique Trinquant. C'est l'ancien chef militaire de la mission française auprès des Nations Unies et qui est spécialiste des questions internationales et militaires.
Pour la première fois, nous voyons les Américains, les Ukrainiens et la coalition des volontaires unis sur un même plan. Ce plan qui a été élaboré depuis un an par un état-major piloté par le Royaume-Uni et la France, les militaires ont remis leur devoir. Ce devoir a été validé par les politiques. Il y avait quand même une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Et donc, c'est un plan important. On a vu la tribune avec le président Macron, bien sûr, le président Zelensky, mais aussi le premier ministre britannique et le premier ministre allemand et l'équipe Wilkoff-Kouchner qui était
donc les deux émissaires américains.
Oui, qui, tout à fait, et qui faisait là bloc ensemble. Donc c'est un sujet important et il faut souligner que le plan militaire qui a été présenté était aussi validé par SACUR. SACUR, c'est le commandant de l'OTAN militaire, mais aussi le commandant des forces américaines. Donc ça veut dire que les Américains ont été associés à ce plan.
Et dans le même temps, Volodymyr Zelensky, il dit que tout ça n'est pas suffisant. Pas encore.
Ça n'est pas suffisant pour deux raisons. D'abord parce que on est content d'avoir ce bloc uni face à la Russie, mais la Russie n'a pas bougé d'un iota. Donc oui. Ça veut dire que on parle d'un plan post-cessez-le-feu. Or pour l'instant, la Russie refuse le cessez-le-feu. Donc on voit qu'on est loin du but.
Pardonnez-moi, mais ce n'est pas finalement. On pourrait dire que c'est mettre la charrue avant les bœufs.
Non, il faut être prêt. Et je pense que ce qu'il y a d'important, surtout, c'est que maintenant, nous avons les Américains avec cette coalition et avec les Ukrainiens. On se souvient des atermoiements de M. Trump depuis qu'il a pris la présidence, avec des allers-retours qui étaient pour le moins compliqués. Je souligne au passage que l'équipe des deux émissaires américains, Wilkoff et Kouchner, qui étaient là, sont ceux qui ont passé 5 heures avec M. Poutine à Moscou. Et dont on ne sait rien de leur discussion. Donc, ils sont de première main de savoir un petit peu comment on va pouvoir faire adhérer ou comment on va contraindre la Russie à appliquer le plan qui a été décidé aujourd'hui.
Les États-Unis, en quelque sorte, ils montent à bord, mais au fond, général Dominique Trinquant, est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance ?
Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Il faut leur faire confiance. Ceci étant, il faut être attentif. Vous avez bien vu que chaque fois qu'il y avait un problème avec M. Trump, en particulier concernant M. Zelensky, les Européens sont revenus à la charge à chaque fois et ont réussi à faire revenir M. Trump à de meilleurs sentiments. Donc il faut espérer que cela va continuer.
Une déclaration à retenir aussi, celle du chancelier allemand, pour qui il faudra faire des compromis pour atteindre la paix en Ukraine. Comment vous l'interprétez ?
Écoutez, on parle surtout du fameux cessez-le-feu. Qu'est-ce que c'est qu'un cessez-le-feu ? C'est une ligne sur laquelle il n'y a pas de combattants et qui se retire de part et d'autre. Alors là, ça va être la négociation entre les Ukrainiens et les Russes pour savoir qui se retire où et comment on va établir une ligne de cessez-le-feu qui, elle, sera contrôlée par des moyens techniques mis en place par les Américains.
C'est ça et rien d'autre, selon vous ?
Je vois difficilement comment on peut faire autrement. Aujourd'hui, le président Poutine, lui, pense qu'il n'a pas besoin de cesser le feu, qu'il peut continuer à faire la guerre. Simplement, il ne progresse pas beaucoup. Et il faudrait que les Américains aident les Européens à mettre la pression sur l'économie russe pour qu'ils se rendent compte, en fin de compte, qu'après 4 ans de guerre, il n'a pas gagné grand-chose. Et il faudrait peut-être qu'il arrête les frais là.
Le général Dominique Trinquant, ancien chef militaire de la mission française auprès de l'Organisation des Nations Unies, qui répondait aux questions France Info de Marc Potvin, la coalition des volontaires, qui a donc précisé son plan en cas de cessez-le-feu en Ukraine. Pour l'heure, on l'a bien compris avec le général Trinquant, ce n'est pas d'actualité, même si les derniers jours ont été relativement calmes dans le ciel ukrainien. Eh bien, la guerre continue. Le renseignement de Kiev s'attend même à des attaques nocturnes massives dans les prochains jours de la part des Russes pour venger cette attaque de la résidence de Vladimir Poutine. continent. En Russie, c'est en tout cas ce qu'affirme Moscou, sans apporter de preuves, qui accuse les Ukrainiens. Les civils en Ukraine donc s'attendent au pire, surtout ceux qui vivent dans des tours, Théo Renaudon, et qui sont en première ligne face aux frappes de drones, comme ici à Odessa.
Le bourdonnement d'un drone qui passe à quelques centaines de mètres de la fenêtre de cette Ukrainienne paniquée, habitante du dernier étage de son immeuble. Des enregistrements comme ceux-ci apparaissent à chaque attaque russe. Ok, ça c'est la vue, on a une vue effectivement sur toute la ville. Dimitri vit avec sa femme au 16e étage dans la banlieue d'Odessa.
Un drone
a touché cet appartement juste en face, à environ 300 mètres. Là, dans l'angle, c'est le point d'impact le plus proche. Très souvent, quand tu dors, tu te fais réveiller par l'alerte aérienne, tu dois alors te lever, t'habiller, évacuer ta famille, tout ça demande du temps. Et quand un missile balistique vient, il ne met même pas 5 minutes à arriver depuis la Crimée.
Attention, alerte aérienne, rendez-vous au refuge le plus proche.
5 minutes, très insuffisant pour descendre les 16 étages de l'immeuble, souvent privé d'électricité et donc sans ascenseur. Alors vous ne voulez pas déménager avec tout ça ?
Можливо, ми би і хотіли, але для того, щоб змінити місце проживання, треба кошти.
Peut-être que nous voudrions partir, mais pour changer de lieu de vie, il faut de l'argent. Pour louer un appartement, il faut un travail. Si on va dans d'autres régions d'Ukraine, il y a déjà beaucoup d'autres déplacés arrivés dès le début de la guerre. Dans ces régions, il n'y a pas de travail. Et puis le logement est devenu très cher dans l'ouest de l'Ukraine, là où c'est plus sûr. La situation en Europe est difficile aussi. Nous avons des connaissances qui ont immigré. On leur parle souvent. Après bientôt 4 ans en Europe, il paraît qu'ils n'ont toujours pas trouvé de travail. Donc c'est problématique.
La famille est donc prisonnière du ciel à la merci des drones russes.
Reportage en Ukraine à Odessa, signé Théo Renaudon, RFI. Pour France Info, des QR codes distribués à des sans-abri pour qu'ils puissent récolter des dons par carte. On vous explique comment et pourquoi ça marche dans le choix de France Info qui arrive.
France Info, 5h-6h.
6h moins le quart, c'est l'heure de l'info en une minute avec Maureen Suignard. Et à la une, Maureen, ce nouvel appel à la prudence des autorités.
Puisque les chutes de neige et les pluies verglaçantes sont déjà de retour, 38 départements en vigilance orange ce matin des Charentes. Aux Hauts-de-France, il est déconseillé de prendre la route. La vitesse des TGV va aussi être réduite. La SNCF a aussi décidé d'interrompre la circulation des trains sur les axes Tours-Saumur et Tours-Poitiers-La Rochelle ce matin. Malgré ces intempéries et des arrêtés préfectoraux qui leur interdisent de circuler en convoi, des agriculteurs comptent bien se mobiliser aujourd'hui. Ils dénoncent la gestion de la dermatose par le gouvernement et s'opposent à la signature d'un accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Le Premier ministre promet des mesures concrètes d'ici vendredi. La France pourra déployer des milliers de soldats en Ukraine pour maintenir la paix. Emmanuel Macron l'affirme après une nouvelle réunion de la coalition des volontaires à Paris hier, les alliés de Kiev. Ils promettent le déploiement d'une force militaire multinationale après la signature d'un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou. Et puis c'est le début des soldes d'hiver aujourd'hui, des rabais jusqu'au 3 février inclus.
France Info.
Dans le choix de France Info ce matin, les nouvelles technologies au secours des sans-abri confrontés au recul du cash. Vous avez sans doute moins de monnaie qu'avant sur vous, voire même pas du tout. Et cela, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont besoin d'une petite pièce pour vivre. Alors l'association Soli distribue des QR codes désormais aux sans-abri reliés à des comptes bancaires pour faire des dons de 2 à 100 euros par carte. De l'argent qui peut ensuite être utilisé pour tout acheter, sauf de l'alcool ou des cigarettes. Bonjour Yvan Planteil.
Bonjour.
Vous avez suivi une maraude à Lille, c'est la ville qui compte le plus de bénéficiaires.
Ce soir-là, une dizaine de bénévoles apportent de la nourriture, de l'eau, aussi des couvertures et des pulls pour faire face aux moins 5 degrés ressentis à Lille. Des enveloppes sont également distribuées aux sans-abri, mais seulement à ceux qui font la manche.
Est-ce que vous connaissez Soli ou pas ? Est-ce que vous avez une carte ?
À l'intérieur de chacune, un tour de cou, un QR code imprimé en grand et inséré dans une pochette plastifiée, ainsi qu'une carte de paiement, ce sans-abri rappelle en vitesse l'un de ses amis, lui aussi à la rue.
Et reviens, on peut avoir les cartes Soli comme on veut. Avoir depuis 2 semaines. Reviens.
Et les voilà tous les deux présents. Le fondateur de Soli, Tim De Guette, leur explique les modalités de ce don 100% électronique.
Du coup, il n'y a pas d'alcool, pas de tabac, pas de jeu d'argent. Et on ne peut pas retirer d'argent au distributeur.
Depuis le temps, j'ai envie d'en avoir une. Et c'est vrai que c'est sympa. On peut acheter des habits, on peut acheter à manger, aller à l'hôtel. Franchement, c'est, y a pas mieux.
Je vais vous créer votre compte. Je vais commencer par toi. Donc là, ta carte est activée. Ici, c'est une enveloppe avec ton code PIN à 4 chiffres. On crédite les cartes 4 fois par jour.
Et nous suivons Christopher qui part faire la manche. Voilà un mois qu'il se promène avec son QR code autour du cou. Et il engage la discussion avec un couple de Lillois.
Je suis à la rue et comme maintenant les personnes n'ont plus de monnaie dans leur poche, si vous scannez ce QR code-là, vous pouvez nous faire un don entre 2 et 100 euros. Vous n'êtes pas obligé si vous voulez bien m'aider.
Karine sort son téléphone, ouvre l'appareil photo, scanne le QR code.
Oui, vous devez mettre vos coordonnées.
Maintenant, il faut que je valide.
L'opération prend quelques minutes.
Ton don a bien été envoyé. Tac, tac, tac.
Ah ouais. Karine et Sébastien, son mari, reconnaissent qu'ils ne donnent plus vraiment d'argent aux sans-abri. Et chacun pour une raison bien différente.
Maintenant, on a quasiment rarement de la monnaie.
Moi, j'achète un sandwich à manger. Et si on me dit non, je veux pas de sandwich, bah, je dis bah, tant pis alors. Une bouteille d'eau, bah, parce que je sais où ce que j'ai acheté, ça va aller dans son ventre. Et j'ai pas envie d'alimenter l'alcoolisme ou le drogué.
Cette Lilloise envoie 3 euros. 91% de ce don arriveront directement sur le compte de Christopher le lendemain matin. Le reste sert à payer la carte et les frais bancaires de l'association.
Bah, je vous souhaite une bonne année, meilleure vie, bonne santé. Et surtout, prenez soin de vous.
Merci beaucoup, madame.
Là, ça marche, tu vois. Au début, tu vois que les personnes sont sur la défensive à cause de tout ce qui se passe. Et quand tu vois qu'après, tu commences à expliquer tout ce que tu peux pas retirer, tu peux pas acheter d'alcool ni de drogue, c'est jackpot, c'est pactole en fait.
À quelques dizaines de mètres de là, Paul, cet étudiant nous voit aux côtés de Christopher. Il est lui aussi convaincu par la pertinence de ce dispositif.
Je trouve ça super parce que je sais que souvent, on n'a pas de monnaie. En plus, de moins en moins aujourd'hui, donc ça m'arrive aussi de ne pas pouvoir donner, malheureusement.
Alors, si l'on dézoome un peu, depuis un mois, Christopher a reçu près de 200 euros. Le fondateur de Soli Team de Guette regarde l'historique de ses dons reçus sur son téléphone.
Là, il y a 5 euros, il y a des 10 euros, 12 euros, 50 euros ton plus gros don.
Avec ce QR code, Christopher recueille 30% de dons en plus qu'en faisant la manche de manière classique. Mais surtout, il se sent plus considéré par les Lillois qui lui font un don.
Les gens s'intéressent encore plus à ta vie, on t'offre plus de choses, tu vois, on t'offre un café, tout ça, c'est ça qui est bien aussi. C'est ça, parce qu'avant, quand les gens donnaient de la monnaie, et ils s'en foutaient, ils donnaient de la monnaie, puis c'est tout, ils partaient.
Depuis la création de l'association, il y a un mois et demi, près de 150 sans-abri ont reçu une carte. Soli espère en distribuer plus de 15 000 d'ici la fin de l'année.
Yvan Planteil pour le choix de France Info que vous pouvez réécouter sur l'application Radio France ou sur franceinfo.fr. Il est 5h50. Des annonces concrètes, il y en aura d'ici vendredi, promet le Premier ministre Sébastien Lecornu au monde agricole alors qu'il a terminé hier soir ses consultations avec les syndicats du secteur. Le Premier ministre tente de calmer la colère sur le dossier par exemple de la dermatose qui touche les bovins avec ses abattages systématiques de troupeaux quand un cas est détecté ou encore sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur qui pourrait être signé dans les prochains jours. Bonjour Camille Revel.
Bonjour.
Service économie de France Info, vous étiez sur place à Matignon hier, le chef de l'exécutif a donc reçu pour ce deuxième jour de consultation la FNSEA et la Confédération paysanne. Alors ces rendez-vous, ils se sont bien passés pour lui ?
Eh bien, ça dépend. Avec la FNSEA, premier puissant syndicat agricole, plutôt bien. Même si son président Arnaud Rousseau nous a dit « ce qui compte aujourd'hui, ce ne sont plus les mots mais les actes ». Donc, il attend de pied ferme les annonces de Sébastien Lecornu vendredi, d'autant, rappelle-t-il, que les attentes ne manquent pas.
Les décrets, par exemple, concernant la loi du plomb, les mesures concernant la mise en place du plan viticulture, les mesures concernant les questionnements des agriculteurs sur, vous savez, ce fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Quand vous devez acheter de l'azote aujourd'hui, vous voulez savoir à quelles conditions vous allez être mangé. Enfin, une liste suffisamment longue, mais je vous en donne quelques exemples concrets que nous avons déposé au Premier ministre il y a maintenant plusieurs semaines.
La FNSEA qui réclame aussi une loi spéciale pour que l'agriculture puisse bénéficier d'avancées d'ici la prochaine élection présidentielle. Du côté de la Confédération paysanne, par contre, cette promesse d'annonce en fin de semaine ne convainc pas du tout.
Ce que je pense le Premier ministre a dû annoncer à Arnaud Rousseau et toute sa clique, c'est clairement pour répondre à des faux sujets qui ne sont pas le cœur même de la colère agricole actuelle.
La porte-parole du syndicat Fanny Mettra, quels sont les vrais sujets selon elle? L'accord avec les pays du Mercosur et la gestion de l'épizootie de dermatose nodulaire contagieuse, pour elle, le compte n'y est pas du tout.
Pour nous, la colère, elle est immense. Et on leur a dit, tant que vous lâcherez rien, on continuera. On sera sur les routes, à bloquer des fermes et à continuer à exprimer notre colère et ce jusqu'au salon de l'agriculture et même après s'il le faut.
La Confédération paysanne, pour mémoire, rappelle la fin de l'abattage systématique d'un troupeau lorsqu'un cas positif de dermatose est détecté.
Et on l'entend bien, Camille, malgré ces annonces, le Premier ministre ne parvient donc pas à arrêter les tracteurs ni les blocages.
Et on en parlait déjà dès lundi sur France Info, ce qui a provoqué de la colère et continue de provoquer de la colère, notamment, ce sont ces arrêtés préfectoraux, l'interdiction pour des convois de tracteurs de circuler dans la majeure partie de la France jusqu'à jeudi. Or, jeudi, c'est la date qu'a fixée la coordination rurale pour manifester à Paris. Elle dénonce une tentative d'entrave, promet de monter quand même jusqu'à la capitale. D'ailleurs, des cortèges de tracteurs sont partis du sud-ouest, mais pas seulement, direction Paris malgré tout. De leur côté, les jeunes agriculteurs alliés de la FNSEA, eux, ont déjà promis de manifester devant le Parlement européen à Strasbourg le 19 janvier en cas de signature du Mercosur.
Merci beaucoup Camille Revel du service économie et sociale de France Info, une superstar du Grand Nord qui s'oppose à Donald Trump, qui lorgne un peu trop selon elle sur le Groenland. Ce sera dans la playlist de Maureen Suignard, mais d'abord l'actu éco en trois titres. C'est avec vous Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'éco avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
On commence avec la Paris La Défense Arena, salle polyvalente de concerts, de spectacles et d'événements sportifs qui sera bientôt sous pavillon américain.
Oui, le géant du divertissement implanté aux États-Unis, Live Nation, annonce avoir signé un accord avec la holding de l'homme d'affaires français Jackie Lorenzetti pour reprendre ce qui est à ce jour la plus grande salle couverte d'Europe, inaugurée à Nanterre dans l'Ouest parisien en 2017. Alors le montant de la transaction n'est pas communiqué, le processus de vente lui n'est pas finalisé, il doit encore obtenir le feu vert de l'autorité de la concurrence, ce qui pourrait prendre plusieurs mois. Une fois la transaction confirmée, le mastodonte américain du divertissement Live Nation lancerait un programme de modernisation de la salle française de 40 000 places pour lui permettre d'accueillir davantage de production toute l'année.
Emmanuel, la France devrait connaître un record de défaillance d'entreprises pour l'année 2025.
Oui, 68 500, c'est le chiffre avancé par les prévisionnistes d'Allianz Trade, spécialisés dans l'assurance crédit. Alors, s'il se confirmait, il s'agirait d'un niveau jamais atteint, après une hausse proche de 3,5% sur un an, donc par rapport à 2024, et la flambée atteindrait même 20% par rapport au niveau d'avant la crise sanitaire. Parmi les secteurs les plus touchés figurent le transport, l'information et la communication, suivi du commerce automobile et l'hôtellerie-restauration.
L'ancien directeur général de la santé, Jérôme Salomon, rejoint le secteur privé.
Oui, figure des années Covid en France, Jérôme Salomon est recruté par la start-up Zoï, spécialisée dans les bilans de santé personnalisés. Zoï, fondée par Ismaël Emelien, ancien conseiller du président de la République Emmanuel Macron à l'Élysée.
Emmanuel Cuny, on prend rendez-vous avec vous à 6h23, dans un peu moins d'une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
La France retrouve son niveau de production d'électricité nucléaire d'avant Covid. EDF a atteint la semaine dernière une puissance oubliée depuis 2019, de quoi passer l'hiver en toute sécurité et puis surtout de vendre toujours plus d'électricité à l'étranger.
Merci beaucoup Emmanuel Cuny. À 5h56, c'est l'heure de la playlist de Maureen Suignard. Et ce matin, Maureen, une artiste qui se dresse face à Donald Trump.
Pour défendre le Groenland, alors que le président américain a dit cette nuit étudier plusieurs options, y compris celle de l'armée pour s'emparer du territoire danois. Et cette artiste est islandaise. Mais contrairement à ce tube, il n'est pas question d'amour, William. Björk, celle que l'on surnomme la reine de la pop expérimentale, se dresse aux côtés des Groenlandais. Dans un post publié sur les réseaux sociaux, la chanteuse écrit qu'elle soutient la volonté d'indépendance du Groenland. Elle qui vient d'Islande, un pays qui a rompu avec la couronne danoise en 44. Björk estime que les Groenlandais risquent de passer d'un colonisateur à un autre. Elle conclut son message en écrivant « Declare Independence », deux mots qui forment le titre de l'un de ses morceaux. Racial fly. Racial fly. Racial fly. Voilà, vous êtes réveillé, hein, si c'était pas le cas, William. Cette chanson sortie en 2008 est un hymne dédié aux îles Féroé et au Groenland, justement, deux territoires danois. Donc, Björk appelle les peuples à protéger leur culture, à déclarer leur indépendance. Une musique qui devient même une sorte d'hymne. Dès sa sortie, Björk l'adapte à d'autres régions du monde. En 2008, lors d'un concert au Japon, elle montre son soutien à la déclaration d'indépendance du Kosovo vis-à-vis de la Serbie. L'un de ses concerts en Serbie est alors annulé. Le festival invoque des questions de sécurité. Björk chante aussi ce morceau en Chine et soutient ouvertement le Tibet sur scène alors que le sujet est brûlant dans le pays et cela lui a valu une interdiction de séjour par Pékin. Quelques années plus tard, en 2014, Björk dédie cette chanson au peuple écossais à l'approche d'un référendum sur l'indépendance du territoire. Même chose en 2017 pour la Catalogne en Espagne. Björk, qui est considérée comme une artiste engagée, a affirmé pourtant à plusieurs reprises qu'elle n'était pas une politicienne, mais avant tout une musicienne qui exprimait des émotions humaines. Mais quand ces émotions se déversent en mode punk, contre l'impérialisme et pour l'indépendance, ça fait forcément beaucoup de bruit. William, vous êtes passé en mode punk peut-être ce matin. Pas de déclaration d'indépendance du 5-6 pour le moment.
Du 5-6 par rapport au 6-9 qui arrive dans quelques instants après la météo de Christine Peña.
France Info Météo, avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur Vérissure.fr.
Christine Peña, après la neige, la tempête. Hein.
Oui, elle est un peu punk d'ailleurs, cette météo, effectivement. La neige qui est de retour aujourd'hui, qui va balayer une bonne partie du territoire. Hein. 38 départements sont en vigilance orange pour cette neige et ce verglas. On a des pluies verglaçantes, mais attention, Maine, Anjou, Poitou, c'est là que le risque est le plus important. Déjà de la neige en Normandie ce matin. Nous avons la neige qui vient un peu prématurément, un peu plus tôt que prévu finalement, vers l'Île-de-France. Déjà sur les Yvelines, elle arrive à grands pas et ce seront des chutes assez abondantes qui vont de nouveau apporter quelques centimètres de plus au manteau neigeux déjà en place, de 2, 3 jusqu'à 7 centimètres de plus des Hauts-de-France à Paris jusqu'au Massif central, vers l'Est, en se déplaçant cet après-midi. Les chutes de neige seront un peu moins importantes et nous avons le redoux qui arrive effectivement, un peu de douceur. En fait, on a un flux océanique qui va chasser le froid et ce flux océanique, on a un creusement assez impressionnant d'une perturbation qui arrive dans le couloir de la Manche et qui donnera à partir de demain, surtout en fin de journée, pour la nuit de jeudi à vendredi surtout, des vents tempétueux. On aura certainement une vigilance orange qui sera émise par Météo France dans la journée.
Merci beaucoup Christine Peña. Alors vous êtes venu avec vos moon boots, je crois, Jérôme Chapy, pour cette matinale. Bonjour.
À pied, je repartirai à pied comme vous, William Bécosta, en ski, voilà, peut-être, on va voir ça. Si